jeu, même si je vais au champ. Déclare-moi papa, pour pas me négliger, l'école est primordiale.
Bonjour Daniel Fradin, président de l'association ABGO à bras grands ouverts, et Ignace Dio, représentant de l'association au Sénégal, sont les invités du magazine. À l'origine, l'association ABGO œuvrait pour la construction ou la restauration d'écoles au Cambodge, aux Philippines et au Sénégal. Depuis 2018, elle sensibilise et accompagne les campagnes d'inscription à l'état civil, pour l'instant au Cambodge et au Sénégal, et innove dans la diffusion de son message. Daniel, dans le sens, vous êtes un routard voyageur.
Quand j'étais en activité, je le suis toujours aujourd'hui, mais au cours de mes voyages, j'ai constaté qu'il y avait mieux à faire que de voyager, et on pouvait se rendre utile. Donc, j'ai profité de ma retraite pour me rendre utile dans différents domaines, et j'ai cherché à être utile.
À l'origine de l'évolution de l'association, une lecture et une rencontre.
J'ai rencontré Maître de Joie de Vertou et nous avons échangé. Il venait d'écrire un livre sur les enfants fantômes. Je lui ai posé la question, comment puis-je être utile? Comment faire pour aider et comment attaquer ce problème? Et il m'a renvoyé, je vais dire dans les buts, vulgairement, en me disant, mais monsieur, vous avez travaillé en Afrique, allez voir les personnes que vous avez rencontrées et allez voir quel est l'état, quelle est la situation dans les écoles que vous avez construites et combien d'enfants ont une identité. C'est ce que j'ai fait.
Vous êtes allé au Cambodge et au Sénégal.
Aux deux endroits, et aux Philippines aussi.
On va parler spécifiquement aujourd'hui du Sénégal, puisque nous avons la chance d'avoir de l'autre côté du fil notre invité, M. Ignace Dio, qui est enseignant, professeur.
De français, dans un CM, c'est-à-dire un collège.
M. Dio, comment vous avez rencontré Daniel ?
Daniel, il est ami avec un ami avec lequel je vivais dans le même appartement en colocation. Et il habitait avec nous, et c'est comme ça que je l'ai connu. Et quand je me suis rendu compte qu'il construisait des écoles pour les enfants de mon pays, je me suis dit pourquoi ne pas l'épauler. Et c'est comme ça que c'est parti.
À l'origine de l'évolution de l'association, une lecture, une rencontre et un constat.
Pour construire des écoles, il faut des budgets importants. Et de plus en plus, aujourd'hui, et tout le monde le sait, il est difficile de collecter des fonds. Je connais le prix moyen d'une école, que ce soit aux Philippines, on en a réparé 13, au Cambodge, on a fait deux groupes primaires complets et une maternelle. C'était trop difficile. Et la problématique de l'identité demandait moins de budget. Mais le sujet était aussi important que celui de l'école. Parce que si on met les enfants dans les écoles sans identité, ils se heurtent à un mur en fin d'études primaires, puisque le passage en sixième est impossible. Sans extrait de naissance, des enfants qui sont de très bons élèves, complètement en pleurs, retournent à la maison et retournent au champ et ne peuvent pas poursuivre leurs études. Imaginez, si cela m'est arrivé, j'aurais été fou, j'aurais été révolté. Donc, je pouvais comprendre ce combat des enfants qui sont démunis d'identité,
monsieur Dio.
Par rapport à la déclaration des enfants, oui, au Sénégal, et surtout pour nos parents musulmans, le baptême religieux doit précéder la déclaration au niveau de la mairie et généralement, cela passe par tête et profit puisque les parents négligent totalement ce fait-là, ce qui fait que les enfants vont à l'école sans pour autant avoir un extrait de naissance. Ça se négocie à l'entrée, mais au moment des examens, ça pose un problème puisque sans l'extrait de naissance, il est impossible de faire l'examen. C'est juste que ça, c'est une négligence des parents.
Ignace peut confirmer. Il y a la déclaration par les parents qui coûte très peu cher d'ailleurs, mais elle est encore payante, c'est un demi-euro. Elle est dans les premiers mois, mais on a une déclaration tardive jusqu'à l'âge de 1 an. Après, ça devient un parcours du combattant et ça coûte très cher si vous y allez individuellement. Donc, les parents devant ce prix qui devient exorbitant. Et en plus, vous allez au tribunal et vous pouvez aller 5 fois, 6 fois avec les témoins parce qu'il y a toute une procédure, bien sûr, et ne jamais passer. J'ai connu une jeune fille qui, à la 5e tentative, m'a interpellé en me disant « Je n'y arriverai jamais, je n'aurai jamais ma carte d'identité ». Elle était en pleurs, elle avait 18 ans. Imaginez le désarroi de cette jeune fille.
C'est au moment de la scolarisation des enfants qu'on se rend compte que là, il y a un problème administratif au fond.
Tout à fait. Alors j'ai parlé avec toujours la couverture d'Ignace qui va conforter ou va infirmer mes propos. Pour amener tout le maximum d'enfants à l'école, l'extrait de naissance à l'entrée de l'école n'est pas obligatoire, sinon il y aurait encore moins d'enfants scolarisés. Donc, que ce soit maintenant en maternelle, parce qu'il commence à y avoir beaucoup de maternelle, ou en primaire, on va à l'école. Et puis, les enseignants ne s'en inquiètent que la dernière année, en CM2. Pourquoi ? Parce que pour franchir le cap CM2, entrer en 6e, c'est la copie de la situation en France, il faut à ce moment-là produire un extrait de naissance. Et là, dans la dernière année, tout le monde panique. Comment on va faire ? Comment on va faire ? Parce que le temps nous est compté et on n'aura pas le temps matériel d'abord de réunir cet argent qu'il faut pour déposer au tribunal. Et puis, c'est le mur. Les enfants se heurtent à un mur. Voilà. Ignace, est-ce que tu cautionnes mes propos ?
Oui, en réalité, l'extrait de naissance est obligatoire à l'entrée. Maintenant, comment est-ce que je vais appeler ça ? Par conciliabule, on peut accepter l'enfant en espérant qu'avant la fin de son cycle, que le problème de la pièce de l'extrait de naissance soit réglé. Mais en principe, l'enfant ne doit pas être accepté sans l'extrait de naissance. Maintenant, comme tu l'as dit, sinon on aurait laissé beaucoup sur le carreau, donc on les accepte en espérant que les parents vont s'acquitter de leur tâche avant l'examen. Mais malheureusement, beaucoup arrivent en classe d'examen sans extrait de naissance. Et là, généralement, le pouvoir public, pour arrondir les angles, demande souvent aux autorités académiques de fermer les yeux, ce qui fait que beaucoup d'entre eux vont passer, n'est-ce pas, sans pièce d'identité, sans extrait de naissance au collège. Et là aussi, le problème est différé, en espérant que d'ici la fin du cycle moyen, qu'ils puissent trouver l'extrait de naissance. Malheureusement, on a toujours des cas d'enfants qui arrivent jusqu'en troisième sans extrait de naissance. Et c'est toujours douloureux. Voilà.
Ça touche toutes les catégories sociales ?
C'est surtout les populations qui migrent, les pêcheurs, les pasteurs, généralement, et en milieu rural, surtout.
Alors, Ignace, je vais apporter un élément, un petit peu un complément d'information. Je n'avais jamais travaillé dans la banlieue de Dakar jusqu'à présent, et pour avoir côtoyé des Dakarois, ils me certifiaient qu'à Dakar, le problème n'existait pas. Or, tu sais que notre ancien directeur est parti de Sali, là-bas, qui était en brousse, est venu à Dakar, à Pékin, et sur une école avec des classes surchargées de 65 à 70 élèves, eh bien, le total des enfants non scolarisés sur cet établissement qui est à Pékin est de plus d'un tiers, 35 à 40%, c'est-à-dire que sur 700 gosses, il y en a 200 à 250, ils ne sont pas. D'ailleurs, en ce moment même, au moment où on enregistre, il y a 110 gosses qui sont sur une audience foraine, c'est-à-dire un endroit où on les rassemble avec les témoins pour régulariser 110 d'un seul coup. Voilà.
On reviendra sur ce qui est mis en place.
Non, mais là, j'explique que ça n'existe aussi dans les banlieues de ville. Et dans la banlieue de Dakar, où Ignace d'ailleurs a travaillé pendant longtemps, le problème est très, 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 très présent.
Et juste pour confirmer ce qu'il vient de dire, par les informations, on vient d'apprendre qu'au niveau de la banlieue dakaroise, effectivement, des audiences foraines ont été organisées pour essayer d'aider les parents à trouver des extraits de naissance pour leurs enfants.
On n'a pas l'idée du nombre d'enfants sénégalais.
Là, je ne maîtrise pas réellement le taux de pourcentage d'enfants non déclarés au Sénégal. Ça, je ne le maîtrise pas trop. Ce qui est certain, c'est que tu as constaté, j'ai constaté, mais il n'y a pas une étude exhaustive de cette situation, puisqu'en réalité, l'État pense que c'est un problème des parents et les parents doivent s'en occuper. Donc, il n'y a pas d'étude réellement faite pour évaluer le pourcentage d'enfants sans identité dans ce pays-là.
Sont concernés les enfants jusqu'à l'âge de 16 ans, mais pas que.
Quand on a commencé à s'occuper d'état civil, notre but était bien sûr de s'occuper que des enfants. Mais au Sénégal et ailleurs, on a constaté à un moment que dans la procédure qui est légale et qui est autorisée, le parent doit avoir une carte d'identité et on doit présenter deux témoins qui ont une carte d'identité. Mais comment enregistrer des enfants quand les parents n'ont pas d'identité ? Donc, nous avons été obligés d'enregistrer des adultes. Des adultes. Pourquoi ? Parce que si on n'enregistre pas l'adulte, on n'enregistre pas l'enfant. Donc, ce qui était un vœu pieux au début, de se limiter à des enfants, c'est utopiste. On est obligé de prendre des parents, leur donner d'abord leur identité pour qu'ils puissent donner l'identité à leurs enfants. Comment faire autrement ? Et donc, nous acceptons, dans ce cas-là, au moment des audiences, que ce soit au Cambodge ou au Sénégal, de faire quoi ? De financer une partie de l'enregistrement des parents. Ça coûte de source, bien entendu.
Est-ce qu'il y a plus de petites filles qui sont touchées et pas déclarées que de petits garçons ?
L'étude pour déterminer le nombre de filles et de garçons, c'est-à-dire les statistiques, cette étude-là n'a pas été faite. Donc nous parlons globalement et c'est des constats que nous faisons globalement. Il n'y a aucune étude qui a été faite à ce sujet dans ce pays. En réalité, c'est des personnes comme à bras grands ouverts qui étaient dans le social ou bien dans l'humanitaire, qui se sont rendus compte de la situation et qui essaient de secouer. C'est vrai qu'au niveau du Sénégal, les municipalités ont fait beaucoup d'efforts, puisque même dans les quartiers, il y a des carnets remis aux chefs de quartier pour que si tu amènes quelqu'un au monde, tu vas directement chez le chef de quartier, tu le déclares et là, il transmet directement au niveau de l'autorité municipale. Mais malheureusement, il y a toujours ce problème de non-déclaration qui se pose. Donc, on revient à la case départ, c'est une négligence des parents, mais par rapport aux statistiques par genre, cette étude n'a pas été faite. Donc, on ne peut pas dire s'il y a autant de filles que de garçons, bien plus de filles que de garçons. Quand un enfant naît, il y a le parent qui doit aller juste avec sa pièce d'identité, le certificat d'accouchement, à la mairie pour déclarer que voilà, ma femme a accouché, voici les papiers, on lui fait un extrait. Sinon, dans les coins reculés où l'état civil est un peu éloigné, le délégué de quartier a un cahier dans lequel, n'est-ce pas, il fait l'enregistrement de toutes les naissances et maintenant, il charge à lui de ramener ça hebdomadairement au niveau de la municipalité concernée.
Concrètement, comment ça se passe sur le terrain? Je suppose que vous organisez des campagnes de sensibilisation, mais vous n'êtes pas un bureau d'enregistrement, vous ne vous substituez pas à l'administration sénégalaise.
Quand on a décidé d'aborder ce sujet et ce problème, on a cherché, on a fait un groupe de travail, d'ailleurs Ignace y a participé, un ami préfet et quelqu'un d'autre, pour savoir quelle stratégie adopter. Parce que là, on parle d'enfants scolarisés, mais il y a des tas d'enfants non scolarisés. Et ça, c'était bien plus compliqué pour aller les capter, les amener. Donc ça a été un travail très délicat, très difficile. Nous avons cherché des moyens et nous en avons trouvé quelques-uns, mais qui sont très légers et pas suffisants en soi. Le premier des moyens, c'est qu'il existe de temps en temps, il existait pour régulariser ce que l'on appelle des audiences foraines. L'audience foraine, c'est très simple à comprendre, c'est une délocalisation du tribunal dans une commune. Ils viennent sur la place publique, on informe tout le monde, mais il y a la police, il faut leur garantir la sécurité. Et là, on prend adultes, enfants, tout ce que l'on peut, sauf que c'est limité dans une journée à, suivant les endroits, à 300, 400, 500 personnes. Bien sûr, les enfants ne sont pas prioritaires, et c'est un petit peu la foire d'empoigne. Tout le monde veut passer. Donc, ce que l'on est venu faire au début, c'est demander, par l'intermédiaire des enseignants, d'avoir des audiences dédiées aux enfants. Ça commence à prendre forme, mais le Covid nous a un peu freinés. On en a fait une en fin 2019, ou sur un endroit qui s'appelle Ficelle. On a passé 500 mineurs scolaires le même jour. 500. Alors, qu'est-ce que l'on apporte, nous, à BGO? Rien du tout, sauf un petit peu, aider à l'aménagement et le rendre plus accessible aux familles. Aller au tribunal tout seul, ça coûte 30-40 euros pour une famille. Quand ils vont en audience foraine, c'est un montant établi entre le tribunal et la municipalité, qui apporte sa quote-part. Ça coûte 5-6 euros, ça dépend de l'endroit géographique où c'est situé. Eh bien, nous, à BGO, on vient là et on met un petit peu une part pour rendre encore ce coût moindre. C'est cette façon que l'on a de le rendre de plus en plus accessible. En espérant quoi? Que les parents prennent conscience que le coût est moindre. Donc on va y aller. Parce que là, on va rentrer dans le cadre de la loi et on va déclarer, on va rattraper le retard qu'on a perdu.
Mais ce que je ne suis pas trop saisi, c'est que si on déclare naturellement dans les jours un parti, ça coûte 50 centimes d'euros.
Ça coûte un demi-euro.
50 centimes d'euros. Par contre, si on veut se régulariser, ça coûte 40 euros.
Oui, parce que je peux expliquer la procédure. On fait une demande auprès du tribunal. Il faut aller au tribunal, donc il faut payer le taxi pour y aller. Il faut emmener les témoins, il faut nourrir le midi. Et comme je vous racontais, ma petite jeune fille que je connaissais, qui était allée 5 fois, elle avait emmené un grand-oncle. Et deux, on doit présenter 2 témoins qui sont majeurs au moment de votre naissance et ce qui certifie qu'ils ont assisté à votre naissance, ou tout du moins qu'ils étaient là et qui peuvent en témoigner. Mais ces personnes-là, elles arrivent le matin, mais souvent quand vous allez au tribunal, la séance dure jusqu'à 21h le soir. Et qu'est-ce qui se passe? À 10h, 11h ou 14h, il est parti le témoin. Et vous venez une fois, vous venez 2 fois, vous venez 5 fois, et vous payez 5 fois les 30 000, 150 000. Vous savez ce que ça fait, 150 000? C'est 200 euros. Pour 200 euros, pour régulariser un enfant, personne n'y va. Donc, les audiences foraines sont un très très bon moyen. Mais il faut aussi que si vous avez 4 ou 5 enfants, même à 3 000, ça fait 12 000, ça fait 15 euros. C'est énorme. Ça fait même plus que ça, ça fait 22 euros. 22 euros au Sénégal, Ignace va vous dire que c'est gigantesque. Donc, à l'unité, c'est acceptable. Pour une famille, c'est beaucoup. Donc, nous, quel est notre but? C'est un domaine où on n'a aucun pouvoir. On ne peut qu'aider, apporter une aide substantielle, mais pas la gratuité. La gratuité est malsaine. Ils sont toujours les parents. Ils doivent faire la démarche de citoyens. Jusqu'au bout. Ce sont leurs enfants. C'est l'avenir de leurs enfants. Demain, je leur prédis que les enfants les emmèneront au tribunal en leur disant « Vous n'avez pas rempli votre contrat. Ils vont être condamnés. » Puisque le code civil est le même au Sénégal. Donc c'est une question de responsabilité de parents.
Monsieur Diot, si vous voulez compléter.
Il a parfaitement raison. Quand c'est la famille qui doit aller au tribunal, non seulement c'est lourd, mais c'est onéreux. Puisqu'il faut mobiliser au moins deux personnes du village, généralement. Donc il faut qu'ils abandonnent tout. Et c'est pour toute une journée. Financièrement, ça coûte cher. Et c'est pas évident. C'est pas du tout évident d'être reçu, de passer le même jour à l'audience au niveau du tribunal. Donc les urgences foraines constituent vraiment une bouée de sauvetage pour beaucoup d'enfants. Et c'est en ce moment-là qu'intervient ABGO en donnant une participation, n'est-ce pas, pour chaque enfant, de l'argent qui est demandé par le tribunal.
Daniel.
Alors, je voulais parler aussi d'un autre domaine dans lequel on ne peut pas mesurer les résultats. C'est le domaine de la sensibilisation. Là, nous avons essayé au début différentes choses. Ignace, d'ailleurs, a participé sur son établissement scolaire, sur le CM. Le CM, c'est 6e, 3e. Au début, je ne pensais pas aller à cet endroit-là. Et j'ai pensé rencontrer, dans les écoles que je connaissais, les parents d'élèves. Nous avons fait des tas de réunions, le soir, parents d'élèves. On a fini la réunion dans un établissement, une école primaire, où il y avait 300 élèves, avec 40 mères de famille, maximum 25. La réunion était à 16h, elle commençait à 18h. Et à 19h30, nous étions 30. J'ai compris que c'était pas le bon moyen de communication. Nous avons un deuxième axe de communication avec un PowerPoint et des présentations sur vidéo dans les écoles auprès des enseignants. Mais nous n'atteignons pas les enfants non scolarisés. Et puis nous avons eu encore une autre idée, c'est de faire des fresques dans les rues, des grandes affiches dans des endroits passagers, avec une femme qui sort de la maternité et qui dit « déclare mon enfant » en langue wolof ou autre. Et puis ailleurs, en Pôle, ou auprès des bergers, parce que ces populations ne déclarent pas beaucoup. Et puis nous avons eu une autre idée, et ça, on va en parler après.
Oui, parce que c'est l'objet, en fait, de notre rencontre. Il y a l'action, entre guillemets, de récupération, c'est-à-dire comment donner une identité à ces enfants qui n'ont pas été inscrits au préalable, mais il y a aussi faire en sorte que ces enfants soient inscrits au bon moment. Vous voulez simplement vous cantonner à faire l'action de seconde chance, je veux dire ça comme ça?
Alors, tout d'abord, tel qu'est le système scolaire au Sénégal, l'identité n'était pas du périmètre des enseignants, et il ne l'est toujours pas. C'est la même découpage qu'en France, c'est-à-dire il y a le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Éducation, et chacun a son pré carré. Toutefois, il fallait faire prendre conscience aux enseignants et aux directeurs d'école et aux enseignants que s'ils ne s'en occupaient qu'au niveau du CM2, la dernière année, ils risquaient d'aller à l'échec sur une majorité d'enfants. Donc il fallait leur faire prendre conscience de s'en occuper dès l'entrée à l'école. Et déjà, ça donne 5 ans, 4-5 ans. Prenez le CP, CE1, CE2, CM1, CM2, c'est comme en France. Et déjà, ça fait 5 ans pour réagir. C'est déjà plus intéressant que 6 mois ou 1 an. On risque de gagner plus facilement. Ça, c'était pas évident. Et puis, comme le dit très justement Ignace, le ministère disait « ouvrez les portes », on les ouvre une fois pour enfants en sixième, puis après, quand on arrive en troisième pour aller au lycée, c'est un deuxième barrage et un deuxième mur, et on se met la tête dans le mur. Donc, les murs se succèdent. Alors, nous, maintenant, on attaque aussi les maternelles. Les maternelles, parce qu'il n'y a pas d'âge pour commencer. Là, aujourd'hui, la séance qui existe dans la banlieue de Dakar, j'ai la liste des 106 enfants qui y sont. 106 sont aujourd'hui. Eh bien, ils ont de 5 ans à 13 ans. Et c'est pas grave. Mais effectivement, plus on les prend tôt, plus on a du temps pour leur donner une perspective, un avenir.
Les accouchements, ça se pratique en maternité, en clinique. Donc on peut identifier les naissances. Donc on peut avoir une action auprès des parents.
Oui, là je peux répondre. Les accouchements se font pratiquement en milieu médicalisé. Hein. C'est les centres de santé ou bien la clinique. Peu d'accouchements se font à domicile maintenant. Hein. Ça, je suis affirmatif.
Oui, donc c'est facile de repérer les bébés qui naissent.
Alors tout progresse. Il est vrai que ce sujet est un sujet très difficile pour le Sénégal. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'y reviens, c'est un sujet régalien, souverain de l'État sénégalais. Donc, il y a des connotations derrière, électorales. Il ne faut pas l'ignorer. Deuxièmement, effectivement, dans les maternités, et les femmes, même de brousse, et Ignace pourra me confirmer, viennent de plus en plus, pour des questions de sécurité, accoucher où ? À la maternité. en ville, là où ils ont des conditions d'hygiène et de sécurité optimales. Et on commence à voir apparaître des maisons d'état civil qui existent à gauche à droite, y compris dans ces maternités. Mais ce n'est pas encore la majorité. Et il vient de nouveaux outils demain. On en parlera après.
Pourquoi pas tout de suite ?
Eh bien, parlons-en. Il existe des expérimentations avec les nouveaux moyens de communication que sont les smartphones. Je connais un ami au Sénégal qui a été responsable d'été action et qui a fait une expérimentation dans la région de Kolda sur un système de déclaration par SMS. Ces gens étaient validés, comme les chefs de village ont un cas registre pour enregistrer, comme l'a dit Dénia tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Sur une zone géographique, dès qu'ils avaient connaissance d'eux, ils l'envoyaient, c'était enregistré, les parents n'avaient pas besoin de se déplacer, et c'est un outil qui est validé. Il a été développé par quelqu'un au Burkina Faso, la Côte d'Ivoire vient de le prendre, le Sénégal ne l'a pas encore adopté, c'est en dernière lecture à l'Assemblée, et demain ou après-demain, il y aura ce système d'enregistrement avec des moyens modernes. Mais le problème, c'est qu'il y a tous ceux qui sont déjà passés, qui ont n'importe quel âge, et que fait-on de cette tranche de personnes ? Il faut bien les rattraper. On n'est pas dans le domaine de demain. Il y a ceux, aujourd'hui, on vit l'instant présent. Et aujourd'hui, ces enfants, on n'a pas le droit de les condamner.
Vous enseignez dans quelle classe, monsieur Diou, le français ?
Cette année, j'ai pratiquement tous les niveaux et j'ai de la 6e à la 3e.
Est-ce qu'on chante en cours de français ?
De moins en moins, sinon on les reprend à chanter l'hymne national à partir de la 6e.
Vous vous rappelez quand vous étiez jeune d'avoir chanté à l'école ?
Oui, je me rappelle très bien. La chanson est systématique à l'élémentaire. Hein. À l'élémentaire, ils chantent toujours. Mais au moins secondaire, ce n'est plus obligatoire.
Parmi les actions, et c'est là où je voulais en venir, il y a eu des affiches murailles, des campagnes de sensibilisation, de réunions et autres. Et là, vient de sortir un titre, Déclare-moi, c'est une composition d'un musicien sénégalais, c'est à destination des enfants. Alors je ne sais pas si c'est Daniel ou vous qui voulez m'expliquer un peu le projet.
L'initiateur est Ignace, donc on va lui laisser donner la réponse.
Bon voilà, c'est que nous sommes une société très orale, donc le rap, le chant, ça marche très bien au niveau des jeunes. On chante beaucoup chez nous, dans la société on chante, dans les églises on chante, dans les mosquées on chante. Donc c'est une culture chez nous le chant, et je pense que c'était un médium qui pourrait véhiculer ce qu'on voulait faire passer. Donc j'ai proposé à Daniel pourquoi ne pas faire du rap, parce que la cible ce sont les enfants, ce sont les jeunes, ça pourrait très bien passer. Donc c'est comme ça qu'est venue l'idée. Donc le rap est quelque chose qui est en vogue ici au Sénégal. Donc on est parti, n'est-ce pas, sur cela pour essayer de toucher le maximum d'enfants et de parents par ricochet.
Vous avez fait appel à Pape Tamba Gaye.
Voilà. Daniel peut compléter ?
Pourquoi diffuser au Sénégal ? Parce que le but, ce n'est pas de leur dire « Venez voir ABGO, ils vont enregistrer vos enfants ». Certainement pas. Nous n'avons pas de moyens pour ça. C'était que les enfants s'approprient la chanson. Pourquoi ? Pour rentrer à la maison, la chanter partout et dire aux parents « Hé papa, hé maman, déclare-moi ». Parce que tu ne l'as pas fait. On se sert des enfants comme un vecteur de communication. On verra ce que ça donne. On l'a mis sur YouTube. On a des stations de radio qui vont le passer. Et le plus grand lutteur sénégalais qui est d'auteur international et qui fait de la MMA l'a écouté et va nous faire un petit clip pour nous diffuser. On espère avoir une très très grande audience. Mais pas pour nous. Notre audience n'est pas importante. C'est que le message passe et on ne pourra pas le mesurer, mais que ça amène les enfants à engager leurs parents, à venir et à aller aux mairies et à aller dans les audiences foraines pour être déclarés. On n'imagine pas au XXIe siècle que sur la planète, il y a environ 300 millions d'enfants non déclarés. Le lutteur en question, il fait des combats internationaux. Les basketteurs internationaux que j'ai rencontrés ont témoigné pour moi. Les uns et les autres savent que sans le petit papier de carte d'identité, leur carrière n'aurait jamais existé. Et n'importe lequel d'entre nous, moi qui voyage et qui ai beaucoup voyagé, c'est pas un frein. Si vous n'avez pas de carte d'identité, vous êtes moins qu'un animal.
Quelles sont les conditions de vie quand on n'a pas de carte d'identité, Ignace Diou ?
Pour travailler, c'est tout un problème, c'est un travail au noir. Même pour le pays, c'est en danger, puisque l'adulte qui n'est pas déclaré, il est libre. Enfin, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. C'est quelqu'un qui peut faire des délais un peu partout, il n'a pas d'identité, on ne peut pas le localiser. C'est une menace pour la population. En plus de cela, on ne saura jamais exactement quel est
n'est-ce pas, le nombre exact de la population. Et ça, c'est toujours dangereux.
On vit une période particulière avec cette pandémie, cette Covid. Comment ça se passe actuellement au Sénégal pour vous? Et puis, quel impact sur les actions de l'association à bras grands ouverts?
La deuxième vague s'accélère, hein, puisque la première vague, la santé pas très bien, mais actuellement, le nombre de morts va crescendo et le nombre de cas aussi. Depuis pratiquement combien? Depuis 3 mois. La région de Dakar, n'est-ce pas, et comment est-ce que j'allais dire ça, est sous couvre-feu à partir de 21h. Ça a plombé toutes les activités, l'informel ne marche plus très bien, l'économie, ça va très mal.
Quelles sont les conséquences du Covid? Une crise économique énorme. Pourquoi? Avec le couvre-feu et autres, les gens ne peuvent plus vendre et on vend le jour pour manger le lendemain. Donc, il y a tous les petits métiers, et il n'y a que des petits métiers, il y a très peu de gens déclarés, et pour eux, c'est une catastrophe, c'est inimaginable. Et donc, par rapport à l'enregistrement des enfants, bien entendu que ce thème-là et ce domaine-là, ces dépenses-là, ne seront pas prioritaires. Elles ne peuvent pas l'être quand vous ne savez pas de quoi, comment vous allez manger le lendemain, ce que vous allez manger et comment vous allez nourrir votre famille. Donc, c'est une catastrophe pour nous. Les audiences foraines n'existent pas, pas de rassemblement comme chez nous. Aujourd'hui, l'audience foraine, elle est exceptionnelle, mais elle est limitée en nombre. Là, on faisait 500, on va faire beaucoup moins. J'espère qu'elles vont reprendre, mais le problème, c'est que le Covid, ils l'ont. La vaccination, ils n'en auront pas beaucoup, parce qu'ils vont avoir ce qu'ils vont pouvoir avoir et pouvoir acheter. Et donc, ça a des conséquences énormes sur notre problématique d'enfants.
On peut aller consulter le site de l'association À bras grands ouverts. On le trouve naturellement sur l'Internet, il n'y a pas de souci. Vous aurez des informations. Juste avant d'enregistrer cette interview, le nombre de personnes qui avaient retrouvé, grâce à l'association, son identité, c'était 2312.
Oui, c'est 2312, c'est ce qu'on a peu mesuré. Nous avons actuellement 5 opérations en cours au Cambodge. Au Sénégal, beaucoup moins, on fait que de la sensibilisation, sauf là, depuis un an et demi, on vient de faire la première audience aujourd'hui pour 110. On en a d'autres derrière, parce que ça part dans la banlieue de Dakar. On va essayer d'amplifier. Aidez-nous à les aider. Le but, ce n'est pas d'aider à BGO, c'est surtout de redonner une fierté, une identité à des enfants qui le méritent, comme n'importe quel individu sur Terre aujourd'hui.
Vous touchez des subventions? Vous faites appel aux dons?
Nous n'avons aucune subvention, donc d'organisme public quel que soit. Le seul argent que l'on collecte, c'est par des donateurs qui sont, je dois bien le dire, la résultante de ma présidente précédente, qui avait un très bon carnet d'adresses à Paris et des tas d'amis. Et en fin d'année, on a fait des spectacles pendant plusieurs années à Paris, théâtre ou autres spectacles. On a fait la course des héros, différentes choses. Mais ça, c'était il y a quelques années. Là, depuis 2 ans, 3 ans, ce sont essentiellement des donateurs que l'on sollicite en fin d'année et qui nous donnent ce qu'ils peuvent. Ils défiscalisent, bien sûr. Tout don supérieur à 30 euros est défiscalisé. Et on a des supports d'information, un site web qui vient d'être fait d'ailleurs, le Facebook, Instagram et un YouTube. Et puis maintenant, ce support, on va dire, de chansons, en espérant qu'il puisse aller le plus loin possible et rendre service surtout pour permettre d'enregistrer un maximum d'enfants.
Monsieur Diot, vous voulez rajouter quelque chose pour se dire au revoir?
Remercier encore ABGO de tout ce qu'ils font pour les enfants de notre pays et les enfants du monde d'ailleurs, puisqu'ils sont ailleurs, ils sont au Cambodge, ils sont aux Philippines. Les encourager, leur demander d'y aller. C'est une noble cause, il faut y aller. Et merci à toi pour l'interview.
Merci à vous, monsieur Diot.
Déclare-moi papa, faut pas me négliger.
300 millions d'enfants exposés parce qu'ils n'ont pas d'identité, pas d'accès à l'éducation ni à la santé, pas de protection contre travail infantile. Les proies faciles, travail forcé, abus sexuel, soldats forcés. Si l'enfant se perd, c'est pas sa faute. Ya ya wanam ke tujudu, ke tujudu nengastel. Ya kaneram khamret no khol, ya mkamwara red jangi.
Merci à Daniel Fradin, président de l'association ABGO, à bras grands ouverts, et à Ignace Dio, représentant de l'association au Sénégal, pour leur libre participation à ce programme. Depuis 2018, ABGO sensibilise et accompagne les campagnes d'inscription à l'état civil au Cambodge et au Sénégal.